L'invité du grand entretien d'Inter ce matin est le secrétaire général de la CGT. Léa Salamé intervient dans 10 minutes. Prenez la parole au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'Inter. La manifestation du 1er mai regroupait hier à Paris entre 25 000 et 55 000 personnes. En marge du cortège, 1200 casseurs ont saccagé des rues de la capitale, obligé la préfecture à vous faire changer d'itinéraire en cours de route. Vous-même, Philippe Martinez, être resté bloqué sur le pont d'Austerlitz. Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Avez-vous eu l'impression tout simplement de vous faire voler votre moment, voler ce 1er mai qui était important en 2018?
Oui, bien sûr. Et ça fait, on peut dire, deux ans maintenant que ce genre de choses se passent. Ça fait deux ans qu'on alerte les différents préfets, les différents ministres de l'Intérieur. Vous vous souvenez, et je vous ai pas ramené les photos parce que c'est les mêmes d'une manifestation le 14 juin 2016 où on trouvait les mêmes individus. Et face à ça, je trouve, et j'ai encore écouté le préfet tout à l'heure, je l'ai écouté hier soir, que malgré qu'ils disent on avait tout prévu...
Et on vous avait prévenu, a-t-il dit.
Oui, d'accord, mais qui est en charge de la sécurité dans ce pays? Le préfet, les autorités gouvernementales ou la CGT? C'est bien le préfet. Et donc, si on a tout prévu, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se passe pas comme ça s'est passé hier?
On vous l'avait dit, pour que les choses soient factuellement établies, on vous l'avait dit lors de vos réunions à la préfecture, attention, ça risque de se passer mal, il faut avoir un autre tracé pour le cortège.
On nous a dit ce que vous avez entendu, attention, il y a des risques, des risques un peu plus importants, mais les informations, ce sont les policiers, ce sont c'est le préfet qui les a, c'est pas nous. Moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, il se passe des choses, et hier, c'était grave, également, et c'est condamnable. Par contre, on donne des ordres, ou on ne les donne pas d'ailleurs, parce que j'ai entendu beaucoup de syndicats de police qui ont dit ce qu'on entendait il y a deux ans, on a des ordres, des contre-ordres, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Par contre, ce que je vois, c'est que, y compris dans le cortège des manifestants qui sont là pour affirmer leurs revendications, il y a des problèmes avec la police.
Expliquez-nous, vous parlez de quoi?
On a été... pardon, c'est encore les gaz lacrymogènes. On a été coincé pendant près de... trois quarts d'heure, une heure sur le pont d'Austerlitz, c'est plusieurs milliers de personnes. Et quand il a fallu se retirer du pont, il y avait des camions de CRS qui bloquaient la sortie.
Les gens passaient au compte-gouttes.
Les gens passaient au compte-gouttes, mais vous imaginez qu'il y a un reflux de manifestants, en tout cas de ceux qui se prétendent des manifestants qui étaient devant, vous voyez ce que ça aurait pu donner. J'ai moi-même discuté avec un capitaine de CRS pour lui dire « vous ne pouvez pas bloquer comme ça ».
Et il vous a dit quoi ?
Il m'a dit « j'ai des ordres, c'est comme ça et vous passez sur le côté ». Voilà, point. Donc c'est pas eux qui sont incriminés. C'est d'ailleurs, je l'ai entendu, c'est ceux qui donnent des ordres, des contre-ordres, ou qui ne donnent pas d'ordre du tout, d'ailleurs.
Donc c'était mal fait, mal pensé, et pas à la hauteur des risques qu'on vous avait exposés.
Deux choses, c'était mal fait, en tout cas c'était assez confus, y compris dans le temps de l'intervention, parce que j'ai entendu une demi-heure, une heure, et puis je ne comprends pas qu'on puisse laisser des gens qui sont quand même habillés différemment de manifestants. Vous savez, moi, j'ai jamais été avec un casque sur la tête manifesté. J'ai jamais été manifesté avec un marteau dans mon sac à dos. Je ne comprends pas que, depuis deux ans, ça se passe toujours comme ça.
Donc, ça aurait pu être évité.
Je ne sais pas ce que vous avez dit le préfet tout à l'heure, mais je n'ai pas entendu ça.
Mais vu l'antériorité, c'est la question que je vous pose. Oui, je vous demande votre sentiment.
Mais oui. Nous avions, rappelez-vous, été voir Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, avec Jean-Claude Mailly, pour l'organisation d'une manifestation que le Premier ministre voulait interdire à l'époque. Parce que derrière ça, c'est le risque. C'est-à-dire qu'au nom de quelques-uns, c'est remettre en cause le droit de manifester, et là, ça serait grave, très grave.
Est-ce que vous craignez une radicalisation de la contestation sociale, Philippe Martinez ?
Je fais toujours attention avec ce mot. Vous voulez me dire, est-ce qu'il y a beaucoup de colère dans ce pays ? Oui. Mais la colère, elle s'exprime de façon différente. En tout cas, elle ne peut pas s'exprimer en... en agressant ou en brûlant des bâtiments, avec d'ailleurs des citoyens qui sont à l'intérieur, je suppose, avec des enfants, C'était le cas, y compris dans la manifestation. Vous voyez, le 1er mai, c'est festif. On va, parents, enfants. Bah, j'ai vu quelques camarades qui étaient avec leurs gamins. Je suis pas sûr qu'ils reviendront à la manifestation parce que c'est quand même assez, le moins qu'on puisse dire, c'est assez tendu.
Donc ça n'est pas de la colère, ou en tout cas cette forme de colère-là n'est pas recevable. Mais alors, est-ce que vous redoutez malgré tout une radicalisation ou une montée en violence, en température, des mouvements sociaux ?
La colère, elle existe. Il y a des phénomènes de masse, mais on l'a vu. Vous vous souvenez certainement, parce que on l'a tellement vu passer, cette image des salariés d'Air France qui étaient en colère parce qu'ils se faisaient licencier. Et donc oui, de la colère, il y en a, de la tension. Quand on est face à des directions d'entreprise ou un gouvernement qui dit globalement, cause toujours, tu m'intéresses, mais je fais ce que je veux. Oui, il y a un sentiment de ne pas être écouté, il y a un sentiment d'injustice face à une politique sociale qui est très peu sociale. Voilà.
Donc vous faites un lien tout de même, je vous demande en fait d'être encore plus précis,
en venir.
Entre l'affaiblissement des corps intermédiaires, ce que vous venez de décrire, et des formes de violence de cette nature.
Ce que je veux vous dire, c'est que on peut pas mener des politiques telles que M. Macron les mène aujourd'hui, nous demander au mieux de les accompagner, voire en faire de la publicité, et puis quand il y a des problèmes, nous dire, bah alors qu'est-ce que vous faites, vous servez plus à rien, comment ça se fait, etc. Voilà, c'est uniquement ça que je veux vous dire.
Quand Édouard Philippe, et ce sera ma dernière question sur le sujet, condamne l'irresponsabilité de discours radicaux qui encouragent de tels agissements, vous recevez ça comment ? Vous vous sentez visé ?
En tout cas, on est à l'origine de aucun de ces problèmes. Tout le monde reconnaît que les manifestants, et en tout cas le 1er mai, souvent c'est vraiment festif. Mais attention aux amalgames. Le Premier ministre a des responsabilités quand il prend la parole. Et j'ai entendu hier trop de propos qui disaient les militants, le cortège des militants. Non, il y avait une seule manifestation hier, c'est celle qui était avec des banderoles, des drapeaux de la CGT, de la FSU, de Force Ouvrière. C'était ça la manifestation hier. Et d'ailleurs, ça s'est passé plutôt très bien dans l'ensemble des villes de France. Il y en avait 200, je crois, où il y a eu des cortèges identiques, en tout cas avec les mêmes revendications.
Ces événements ont de fait masqué, Philippe Martinez, la profonde division syndicale. On comprend mal, pour vous le dire. Oui, enfin, elle était visible, hein, mais on a parlé d'autre chose en attendant dans la journée.
Ça a surtout masqué l'objet de cette manifestation, les revendications et la politique sociale ou antisociale du gouvernement.
Et puis, la division syndicale, on comprend mal ce qui vous empêche de vous rassembler, ce qui vous fait dire, bah tiens, pour ce 1er mai, puis avant et après, restons divisés, ce sera beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace pour défendre les salariés. C'est incompréhensible. Si vous êtes tous attaqués comme corps intermédiaire, expliquez-nous pourquoi la division vous rend plus fort.
Je suis en difficulté pour vous expliquer, parce que depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je ne comprends pas moi-même comment se fait-il que dans la quasi-totalité des entreprises, dans la fonction publique, il y ait une unité très 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 large. Dans la fonction publique, tous les syndicats sont ensemble, et qu'au niveau des confédérations, évidemment, on a des différences. Évidemment, on a des différences d'appréciation sur le fait qu'on puisse ou non aménager les lois proposées par le gouvernement. Nous pensons qu'on ne peut pas les aménager. Mais au moins, en termes de soutien face à ces milliers de salariés qui sont mobilisés, qui contestent et qui proposent, soit on cultive nos différences, soit on fait ce qui rassemble les salariés. Et dans l'histoire de notre pays, toutes les conquêtes sociales ont pu être obtenues quand les syndicats étaient unis. Je lance un nouvel appel à mes homologues. Il s'agit pas de dire on est pareil. Tout le monde sait qu'on n'est pas pareil. Mais dans cette période où il y a une forte montée des mobilisations, il y a besoin de mettre nos différences de côté et essayer de travailler ensemble.
Donc voilà pour le nouvel appel de Philippe Martinez. Que vous répondent FO et la CGT pour les précédents appels avec donc comme
CFDT,
réponse,
vous voulez dire ?
Oui, CFDT, pardon. Ils vont répondre quoi ? C'est pas le moment. Convergence des luttes, ça nous plaît pas. Ça, c'est les vieilles lunes de la CGT.
On peut l'appeler comme on veut. Si convergence ça plaît pas, on appelle ça unité d'action. C'est pas très nouveau, mais ça a aussi marché dans le passé. J'ai entendu le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière dire qu'il allait nous appeler. Donc, je prends acte et c'est une bonne chose. J'ai écouté, j'ai lu ce qui s'est dit hier au rassemblement, et je crois que vous aviez une invitée de la CFDT hier matin.
Véronique Descac.
Parce que j'écoute votre émission, je ne sens pas toujours dans leurs propos la volonté de travailler les convergences ou les appréciations.
Mais vous l'avez, cette volonté.
Oui.
On se met autour d'une table, tous syndicats ensemble, et on essaye d'avancer.
Et on ne fait pas semblant d'être d'accord. On ne fait pas semblant d'être d'accord. Mais regardez à la SNCF, tous les syndicats ne sont pas d'accord sur l'ensemble des objectifs, mais ils travaillent ensemble. Et ils ont fait 9 propositions.
Il est 8h32, on vous laisse boire une gorgée d'eau. Encore Philippe Martinez, Léa Salamé tout de suite. Léa.
Monsieur Martinez, qu'est-ce que vous attendez de la rencontre de lundi avec le Premier ministre sur la SNCF? Est-ce qu'il y a encore des marges de négociation de votre côté ou vous continuez à dire qu'il faut retirer la réforme en son entier?
Pourquoi vous dites de notre côté? Parce que pour l'instant, ceux qui ne veulent pas bouger, c'est eux. Donc, je suppose que le Premier ministre qui disait il y a 10 jours, hors de question de les recevoir, et c'est plutôt une bonne chose qu'il ait changé d'avis, s'il nous dit « venez me voir », c'est qu'ils veulent nous expliquer que, sur un certain nombre de sujets, ils ont changé d'avis, en tout cas, ils ont évolué.
Est-ce que vous avez noté le geste sur la reprise de la dette?
Mais c'est pas assez précis. Combien? Quand? Voilà, c'est exactement ce genre de propos qu'il faut préciser. La dette de la SNCF, elle est en totalité la responsabilité des gouvernements successifs. Vous savez que le plan... sur ces 30 dernières années d'investissement sur les lignes à grande vitesse, c'est plus de 100 milliards d'euros. La dette, c'est combien?
50. Donc voilà, vous demandez au gouvernement de la reprendre en son entier, c'est ça que vous demandez?
Évidemment, et non seulement de la reprendre, mais de veiller à ce que les investissements qui sont nécessaires et qui sont financés, il faut bien le dire, par la SNCF uniquement, eh bien, ils servent aussi à ce qu'on appelle les petites lignes, parce que les petites lignes, pour ceux qui les prennent, ce sont des lignes essentielles.
La mobilisation faiblit par rapport au début du mois d'avril. Elle chute ces derniers jours. Est-ce que vous dites qu'il y a eu un échec de la méthode, de la grève perlée?
Non, pas du tout. C'est pas un échec.
Une erreur. Est-ce que vous auriez dû procéder différemment?
La mobilisation, elle est moins forte en ce moment, mais il y a une période qui est aussi particulière. En tout cas, moi, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de cheminots, surtout d'ailleurs plutôt sur les territoires, en province. Ils sont très, très déterminés. Ils sont déterminés.
Donc vous allez continuer
C'est eux qui décident, premièrement. Mais l'intérêt, justement, parce qu'on a besoin de l'intérêt de cette forme de grève, c'est qu'on est 3 jours sur 5 en contact avec les usagers, et on produit beaucoup de matériel d'explication, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, et le gouvernement et la direction et Monsieur Pépi ont essayé de limiter le débat au statut des cheminots. C'est bien plus important que ça, le débat national, c'est quelle politique ferroviaire. On parle beaucoup d'écologie, d'environnement, pas un mot sur le fret jusqu'à il y a quelques jours pour nous dire on va filialiser. Enfin, vous savez que faire passer les marchandises par train, c'est quand même mieux que des milliers de camions sur les routes.
Donc la CGT reste déterminée à continuer.
Vous avez noté que pas que la CGT, d'ailleurs.
Oui, pas que la CGT, mais là, en l'occurrence, c'est vous.
Oui, d'accord, mais je tiens à le préciser aussi.
Un mois de conflit social à Air France, Laurent Berger de la CFDT ne mâche pas ses mots. Il affirme, je cite, qu'Air France est en danger à cause d'un jusqu'au boutisme d'une corporation qui entraîne la compagnie vers le fond. Le président du syndicat des pilotes se prend pour le leader Massimo, dit-il. Laurent Berger, ça vous fait rire. Vous n'êtes pas d'accord avec lui?
Massimo, ça me fait toujours rire.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger?
Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que le débat, il n'est pas placé entre les pilotes et le reste du personnel. C'est quelle politique, là aussi, aérienne on a pour cette compagnie, où on met en opposition, en créant de multiples filiales low cost, les salariés entre eux, c'est un problème. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle, parce que de pourquoi les grandes entreprises françaises qui ont dégagé plus de 100 milliards de bénéfices l'année dernière ont donné la moitié de leurs dividendes à leurs actionnaires.
Donc vous apportez votre plein soutien au syndicat de pilotes.
À tous les salariés d'Air France.
Dont les syndicats de pilotes.
Tous les salariés d'Air France.
C'est mieux en précisant.
Oui, à tous les salariés, c'est mieux.
Philippe Martinez, pourquoi vous n'allez pas à la fête à Macron samedi aux côtés de François Ruffin?
Parce que, pour deux choses, je pense que, et nous avons l'occasion de le dire à François Ruffin, avoir deux initiatives un jour férié et un samedi, parce que l'idée de faire des choses un jour où les gens travaillent moins ou peu, c'est une bonne idée. Mais le 1er mai, le 5 mai, comme vous le savez, c'est, comme vous l'avez noté, c'est à 4 jours de différence. Je pense que c'est le débat a lieu entre est-ce que je veux le 1er mai, est-ce que je veux le 5 mai. Notre débat à nous, c'est comment on met plus de monde le 1er mai. Et c'est ce qu'on a essayé de faire.
Donc la c'est à cause du calendrier qu'on n'y
allait pas. La deuxième chose, c'est faire la fête à Macron. C'est pas une revendication sociale. Nous sommes un syndicat. Nous, leur revendication sociale, c'est changer de politique sociale. C'est augmenter les salaires. C'est réduire le temps de travail. Créer des emplois.
C'est pas changer le président, c'est ce que vous nous dites.
Vous savez, on vient d'en changer de président. Est-ce que ça va mieux?
Je sais pas. C'est ça à vous de répondre.
Vous savez pas, moi je vous dis non.
Le Conseil d'État juge sévèrement le projet de loi sur l'assurance chômage présenté par le gouvernement dans un avis rendu hier. Il valide les grands principes, mais demande au gouvernement de revoir sa copie sur plusieurs dispositions qui mettent en cause, selon le Conseil d'État, le principe du respect de l'égalité entre les citoyens. Mmh. Une réaction ?
Oui, enfin nous sommes beaucoup plus critiques sur cette réforme que le Conseil d'État. Parce que cette réforme, c'est d'abord, entre guillemets, la chasse aux faux chômeurs. Or, ça n'existe pas, les faux chômeurs. Vous savez que les fraudeurs, comme on dit, ça représente 0,4%. Et donc, on va mettre plus de moyens pour aller surveiller les chômeurs, au lieu de mettre plus de moyens pour aider les salariés qui sont en charge de ce boulot, de leur trouver du travail. C'est quand même un paradoxe.
On passe au standard de France Inter. Vous avez la parole, intervenez au 01 45 24 7000. Bonjour Fanny, bienvenue.
Bonjour France Inter, merci de me donner la parole. Bonjour Monsieur Martinet.
Bonjour.
Voilà, moi j'étais à la manifestation hier et je me pose la question. J'ai vu beaucoup de CRS, j'ai vu les caisseurs, j'ai vu beaucoup de CRS et je me pose la question de savoir pourquoi les CRS ne sont-ils pas intervenus. Et je ne suis pas une adepte de la théorie du complot, mais là franchement je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une espèce de propagande qui est en train de se faire pour dissuader les gens d'aller manifester aujourd'hui.
Merci Fanny pour cette question que je transmets à Philippe Martinez.
Alors pourquoi ils ne sont pas intervenus? Je pense que c'est une question qui s'adresse plus au préfet. Par contre moi aussi j'ai vu beaucoup de CRS et j'ai eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure qu'ils sont intervenus tard, mais en même temps ils sont aussi intervenus contre ceux qui étaient dans le cortège qu'on appelle syndical, et je vous ai expliqué qu'il y a eu, y compris des militants de la CGT qui ont été bousculés, frappés. C'était déjà le cas le 19 avril. J'ai une camarade de 61 ans qui a passé sa nuit à l'hôpital. Je suis pas sûr qu'à cet âge-là, même si elle est gaillarde, comme on dit, on soit une menace pour la police. Voilà, c'est ça la réalité.
Beaucoup de questions sur ce thème de la manifestation, de l'exercice du maintien de l'ordre, que ce soit sur l'application ou au standard. Merci Fanny d'être intervenue. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous aussi.
Oui, bonjour aussi Monsieur Martinez.
Bonjour.
Moi, ma question, elle était de savoir comment est-ce que vous expliquez que près de la moitié des manifestants à Paris hier ne souhaitent pas manifester dans les cortèges syndicaux. Je pose la question parce qu'il y a devant ce cortège syndical, il y a aussi des tracts qui circulent dont un que j'ai eu qui dit en quelques mots que pour beaucoup, il est le symbole d'une lutte offensive qui renoue avec l'action directe qui a historiquement pu être nécessaire dans les combats des travailleurs. Donc comment est-ce que vous expliquez que près de la moitié des manifestants ne souhaitent plus manifester dans les cortèges syndicaux?
Et qu'ils veuillent l'action directe comme le dit ce tract-là?
Bah, apparemment,
au moins
le tract. Mais moi je vois les chiffres annoncer que près de la moitié du cortège...
Ça a été confirmé, effectivement.
Des syndicalistes, parce qu'il y a même des gens avec des chasubles et des drapeaux qui montent.
Merci Thomas pour cette question. Les chiffres, effectivement, ont été confirmés tout à l'heure par le préfet de police. Il y avait deux cortèges. Philippe Martinez.
Oui, c'est les chiffres de la police, quoi.
Vous n'y croyez pas?
C'est les chiffres de la police.
Bon, parce alors que... 10 000, si vous voulez pas 12 000.
En tout cas...
Vous voyez bien le sens de la question.
Mais oui, bon. Non, mais je tiens aussi à préciser, parce que quand c'est les cortèges syndicaux, on rabaisse, et puis là, pour justifier, ou en tout cas essayer d'expliquer ce qui s'est passé, on augmente. Il y a toujours eu, devant les cortèges syndicaux, des manifestants. Il y a des plus jeunes, je pense aux étudiants, qui et c'est leur droit de dire, nous, on se met pas derrière les syndicats, parce que vous ne nous représentez pas. Ça a toujours existé. Par contre, sur ce cortège-là, évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Il n'y avait pas, alors, combien c'est votre chiffre? 14 000
10, 12,
Il n'y avait pas 10 000 personnes habillés en noir, cagoulés, casqués.
Non, c'est pas ça. C'est des gens qui n'étaient pas dans le cortège officiel toujours, et qui n'étaient pas casseurs pour autant.
Il y a toujours eu, et de tout temps, je suis pas un historien, mais de tout temps, des cortèges.
Donc ça vous inquiète pas qu'il y ait autant de monde en dehors du cortège?
Non, bah, les étudiants, c'est souvent...
En termes de mobilisation.
Les étudiants, en tout cas, c'est peut-être une forme de convergence, d'ailleurs. Qu'on se retrouve comme ça, au même endroit, avec des mots d'ordre parfois différents. Et puis un tract ne dit pas forcément l'opinion de tous ces dizaines de milliers de manifestants.
Guy est au standard. Bonjour et bienvenue, Guy.
Bon, oui, bonjour, Patrick, Monsieur Demorand et Monsieur Martinez. Je suis un vieux nostalgique du 1er mai, avec, disons, les Fordéales qui portaient le brin de muguet René Coty. Je dois dire que ça a changé. Et je voudrais demander à Monsieur Martinez s'il ne se sent pas piégé à chaque fois. Il l'a dit tout à l'heure, depuis 2 ans, moi aussi, je suis comme lui. Je constate qu'il y a effectivement au-dessus, disons dans les sphères très hautes, des consignes de joueurs d'échecs qui disent on va faire comme si on va mettre les CRS, les mains dans le dos, et ils attendent, ils n'ont pas d'ordre, et il se passe ce qui s'est passé, c'est-à-dire une discréditation frauduleuse de la CGT et de toutes ces organisations syndicales.
Merci.
Par le fait, et je demande aussi à M. Martinez s'il n'envisage pas une autre façon de faire, disons, passer ces revendications qui sont justifiées pour un service public de qualité. Voilà.
Merci Guy pour cette question. Philippe Martinez vous répond.
Écoutez, les revendications, on les a et on les fait passer. Enfin, en tout cas, on essaye de le faire au maximum. Par contre, sur ce qui se passe, oui, il faut d'autres explications que ce que j'ai entendu depuis hier soir de la part du préfet et de la part du ministre de l'Intérieur.
Mais vous voulez savoir quoi de plus? Expliquez-nous, Philippe Martinez.
On veut savoir comment se passe la préparation de ces manifestations, pourquoi on se retrouve... Enfin, ils sont quand même repérables, enfin, je veux dire, ils sont... C'est pas...
Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils n'étaient pas repérables parce qu'ils étaient au milieu de ce... Enfin, là, pardon, je ne suis pas le porte-parole du préfet de police, mais c'est ce qu'il a expliqué ce matin.
C'est bien, c'est bien. Vous savez, je fais quelques manifestations, vous le savez, je suis devant, voilà. Notamment en 2016, hier ils étaient plus loin, mais en 2016, on les voit arriver, ils se changent, voilà, moi je peux vous expliquer la technique, pourquoi moi, en plus vu ma taille moyenne, je suis pas au-dessus de la mêlée, mais je les vois, pourquoi un certain nombre de policiers qui sont pas tous habillés en noir ne les voient pas, ne les surveillent pas.
Ils étaient pas habillés en noir, tout de suite, ils n'arrivent pas habillés en noir. Voilà, c'est ce qu'il a expliqué.
Ils mettent un drap devant eux. Ils se changent derrière le drap, ils ont des sacs à dos, et ils sortent en noir avec des marteaux, des barres de fer, etc. Pourquoi nous on le voit et qu'il ne se passe rien et que la manif d'après, ça recommence? Voilà. Et d'ailleurs, des fois on les voit de très près parce qu'ils ne tapent pas que sur la police. Ils tapent aussi sur les cortèges CGT et notamment ce qu'on appelle les services d'ordre.
Merci Philippe Martinez.
Merci à vous de
d'avoir
m'avoir invité.
Été au micro d'Inter ce matin. À suivre dans quelques instants le carrefour du 7-9, médias, politique, revue de presse.
Et l'humour avec Nicole Ferroni.
À tout de suite.